Déambulation.
Bonjour à toutes et à tous, ici Louis pour RDWA sur 107.5 FM et www.rdwa.fr. Aujourd'hui, je vous propose une déambulation sur le voyage qui a eu lieu du 4 au 8 mai à Frankenau, en Allemagne, une réunion des comités de jumelage de Die, de Werkworks en Angleterre et de Frankenau. 45 Français et 35 Anglais furent accueillis par des familles allemandes et partagèrent des moments conviviaux, balades, visites touristiques, repas et concerts. Et ce jumelage entre Frankenau, qui comprend le petit village de Luisendorf, et Die, est particulier car des liens historiques existent depuis 1688, où des dizaines de Diois huguenots, mis en danger par la révocation de l'édit de Nantes, s'exilèrent en Allemagne, fondant le village de Luisendorf. Pendant très longtemps, les habitants de ce village relativement isolé dans la campagne allemande continuèrent à parler français. Puis, suite à la volonté de quelques Diois de renouer des relations après la Deuxième Guerre mondiale, un jumelage officiel raviva les liens entre lointains cousins. Pour parler de ce jumelage, plusieurs personnes s'exprimeront. Heinz Beck, traduit par Claire Watson, Yves Lévin, Jean-Paul Keller, Eliane Maifaux et Gerhard Bastet. Là, je me trouve avec Heinz Beck et Claire Wesson qui va traduire et on va un petit peu parler de ce français qui a perduré à travers les siècles. Et c'est fascinant comme expérience historique. C'est quelque chose qui est très interpellant. C'est effectivement ce français qui a su persévérer, qui a su passer 300 ans à partir d'une communauté d'une centaine d'âmes. On parle beaucoup de francophonie de nos jours. C'est une vraie question et peut-être Monsieur Berg, qui habite ce village, va nous aider avec l'aide de Claire en traduction.
Als die Huguenotten am 4. Juni 1688 in Luisendorf angesiedelt wurden, lebten sie sehr abseits. Es war keine Durchgangsverkehr und sie waren sehr oft getrennt von den anderen Orten. Sie lebten für sich. Sie wollten auch keine Zuwanderer, keine deutschen Zuwanderer haben. Sie konnten selbst bestimmen, wer nach Luisendorf ziehen durfte oder nicht. Und deshalb hat sich die französische Sprache so lange in Luisendorf erhalten. Bis 1850 wurde in der Schule nur Französisch unterrichtet, immer wieder von Lehrern aus Luisendorf. Die wurden vom Landgrafen bezahlt und die Kinder waren schulgeldfrei.
Monsieur Berg raconte que quand les Huguenots sont arrivés à Luisendorf, c'était vraiment la fin de la rue, un cul-de-sac. Alors ils ont pu déterminer qui entrait dans le village et qui entrait pas. Ils se sont restés beaucoup entre eux. Et c'est à cause de ça que leur langue a vraiment survécu. Jusqu'à 1850, on ne parlait que du français dans le village.
Du vieux français en plus.
Du vieux français, oui.
Et après 1850, qu'est-ce qui s'est passé?
Mit danach wurde in der Schule Deutsch und Französisch unterrichtet, bilingual.
Also, après 1850, l'enseignement dans l'école était bilingue, français et allemand.
Bis 1918, bis Ende des Ersten Weltkrieges.
Jusqu'au fin de la Première Guerre mondiale, en 1918.
In der Kirche wurde noch länger Französisch gepredigt, nur Französisch gepredigt, bis 1869.
Dans l'église, on priait toujours en français jusqu'à 1869. 1869, on priait dans l'église à Luisendorf en français.
Dann kam das Zweite Deutsche Kaiserreich und dann waren die Luisendörfer auch mehr, fühlten sie sich zu den Deutschen hingezogen und dann wurde diese französische Sprache in der Kirche abgeschafft.
Oui. Après c'était la guerre entre la France et l'Allemagne, en anglais on le nomme le Franco-Prussian War, et les Huguenots se sont alliés plutôt avec les Allemands en fait à cette époque-là, et après ils ont prié en allemand dans l'église.
Aber in den Familien, in den Häusern, da wurde weiterhin Französisch gesprochen.
Mais dans les familles, ils continuaient à parler français entre eux.
nicht in allen Familien, aber in einigen, die sich besonders auf die hugenottische Sprache besonnen haben und die hugenottische Vorfahren hatten.
Pas dans toutes les familles, bien sûr, mais dans les familles qui vraiment avaient des racines dans les Huguenots, en fait.
Besonders war das in der Familie Becker und in der Familie Bastet. In der Familie Becker wurde bis 1971 bis zu seinem Tod sprach er mit seiner Schwester, er lebte mit seiner Schwester zusammen, nur Französisch.
Surtout dans les familles Becker et Bastet, le français a bien sûr vécu au milieu du XXe siècle. Par exemple, Monsieur Becker a vécu, a habité avec sa sœur, ils ont parlé français entre eux jusqu'en 1961. Et c'est là qu'il est mort.
Diese Sprache war aber nicht so grammatikalisch orientiert. Wenn die französischen Besucher kamen von der Partnerschaft und der Herr Becker oder der Herr Bastet sprachen dieses Altfranzösisch, dann haben sie immer ein Lächeln hervorgerufen, weil sie nicht dekliniert waren. Es waren viele Vokale, wurden anders ausgesprochen.
Also, cette langue était bien différente au français moderne qu'on parle ici dans le Diwa. Et quand les gens sont venus du Diwa avec le jumelage, ils ont, c'est pas se moquer d'eux, mais ils ont bien ri parce que la langue était différente, peut-être pas avec le bon grammaire. Mais ils ont bien compris le français.
Ja, sie haben es verstanden, nur es war eben nicht ihr Französisch. Ja. Deshalb dieses Lächeln, dieses Schmunzeln. Und eine Frau Armand, die auch hugenottische Vorfahren hatte, die sprach dieses alte Französisch perfekt, fast als einzige so spät in ganz Europa bis 1986.
Madame Armand était un vrai spécialiste de ce vieux français. Elle le parlait parfaitement jusqu'en, je crois qu'en 1968.
Bis 1986. Bis zu ihrem Tod.
Ah, jusqu'à sa mort en 1986.
Ja, oui. Und Sprachforscher aus Lyon und Paris sind gekommen und haben Aufnahmen gemacht.
Ah, die Rechercheurs de Paris et de Lyon sont venus pour faire des enregistrements de cette langue ancienne.
Auch Deutsche sind gekommen, haben Aufnahmen gemacht, die sind im Staatsarchiv in Marburg deponiert und wir haben für Luisendorf eine Kopie bekommen, die nicht sehr gut ist. Die Geräte waren damals noch nicht so perfekt, aber man kann sie sehen und man kann sie auch sprechen hören.
Ça existe aussi dans les archives en Allemagne, à Marburg, des enregistrements aussi de cette vieille langue. Et ça existe aussi à Luisendorf. La technologie à cette époque-là n'était pas super, alors, mais on peut entendre ce vieux français.
Und diese Aufnahmen kann man sich ansehen, die versuche ich für dich zu besorgen.
Et Monsieur Berg va s'occuper de nous apporter cet enregistrement pour une prochaine fois. Oui.
Alle Personen, die dieses alte Französisch gesprochen haben, leben heute nicht mehr. Die Kinder oder Enkel haben das nicht übernommen, diese Tradition nicht übernommen.
Et les personnes qui ont parlé ce vieux français ne sont plus vivants et leurs enfants n'ont pas repris le flambeau. Alors c'est plus parlé maintenant.
Monsieur Becker erzählte immer ein Märchen, der Wolf und die sieben Geißlein, aber da waren nur der Wolf und die zwei Geißlein, Jeanchen und Klotchen. Das erzählte er den Gästen immer auf Französisch, diese Geschichte. Und die spielte sich in der Nähe, in der Hundsmühle ab, in der Klause, da ist eine Partie, wo die auch gewohnt haben, dort soll dieses sich abgespielt haben.
Monsieur Becker raconte une histoire en français, une conte des frères Grimm, qui s'agit d'un loup et ses sept, mais j'ai pas compris le mot,
Chèvres.
Sept chèvres, ok, sept oui. Chèvres. Et, mais il existe une version, Mickey. Il y a une version avec un loup et deux chèvres.
Jeanchen oui. Et Klotchen. Und den Text,
qui s'appelle Jeanchen et Klotchen.
Den Text ja. Kann ich dir geben.
Et il peut nous donner le texte de cette Histoire Grimm, Version ancien français.
Gut, kann ich sagen. Das war was ich jetzt über die Sprache so erzählen kann. Wir bedauern es. Ich versuche etwas das Französisch zu sprechen. Nach meiner Pensionierung versuche ich zu lernen und für mich privat, aber naja, so ein bisschen kann ich aber...
Herr Berg, maintenant qu'il est en retraite, il va essayer et il essaie d'apprendre un peu ce vieux français pour que ça dure un peu.
On parle beaucoup de francophonie de nos jours et c'est vrai que ce serait une belle idée que ça puisse renaître.
De bien connaître les langues de France, tu veux dire?
Non, la francophonie, c'est... C'est le fait qu'il y ait à travers le monde un certain nombre de Français qui parlent au Sénégal, au Québec, même les Cajouns, etc. C'est tout un monde. Et donc, il y a beaucoup d'argent qui est investi pour
les Français,
faire en sorte que ça reste vivant, parce que c'est une arme
tout
fait,
le monde,
culturelle.
Oui.
Also, hier in France, hier in Frankreich, die Leute interessieren sich sehr für diese französischen Sprachen, die außerhalb
von
Frankreich gesprochen sind.
Louisiane,
Quebec,
Switzerland,
Belgium, in Kanada.
Quand je repose la question, c'est qu'à cette époque de francophonie, ce serait tellement beau que le français de Louisendorf renaisse.
Yes. Das gehört jetzt nicht zur Sprache, aber wenn die Tour de France in Frankreich ist und wenn sie durch die führt, dann ist von allen Sendern, ob Erste Programm oder RTL oder so, wird immer erzählt, da gibt es einen Ort in Deutschland, der heißt Louisendorf. Und da stammen die Leute her. Es wird Louisendorf immer erzählt, immer erwähnt. Louisendorf ist eines der bekanntesten Hugenottendörfer in ganz Europa.
Quand le Tour de France qui passe très souvent sur Die, il raconte toujours l'histoire du village Louisendorf. C'est pour ça que le nom du village Louisendorf est très connu en France, parce que le Tour de France passe par Die et on en parle toujours.
Und ich habe bei der ersten, ich wandere den Hugenotten- und Waldenser-Wanderweg von Pouilly-la-Val durch ganz Frankreich mit meiner Familie und Bekannten. Und bei der ersten Etappe haben wir in Pouilly-la-Val ein französisches Fernsehteam getroffen. Und da war ein Wannes dabei, der mich kennt, der schon oft in Louisendorf war. Und dieses dritte französische Fernsehen ist dann nach Louisendorf gekommen und hat mit mir vor der Schulscheune ein großes Interview gemacht. Ist in 2012, glaube ich, ist es ausgespielt worden im dritten Programm.
Herr Berg raconte que il a fait les étapes du chemin des Huguenots, Sentier des Huguenots en France. Et une fois, il était à, j'oublie le nom, Saint-Paul...
Les Trois-Châteaux.
Oui, non, c'est pas Saint-Paul des
Trois-Châteaux.
Oui. Et il a rencontré quelqu'un qui travaillait pour France 3, et ils ont fait une émission sur Louisendorf, et en fait le reporter est venu rencontrer Monsieur Berg à Louisendorf pour raconter l'histoire des Huguenots. Et c'était à cause de cette rencontre en France
qu'il faisait le sentier. Ich war schon im französischen Fernsehen.
Il était déjà sur la télévision en France.
Auch nach dem Zweiten Weltkrieg haben oft die Louisendorfer auf Kirmes, auf einer Feier, wenn sie untereinander waren, Französisch gesprochen. Und das hat die Nachbardörfer gestört. Und deshalb haben sie uns, mich auch als Kind noch, in den 50er Jahren immer als Franzosen beschimpft. Die Franzosen mit den roten Hosen.
Alors, Monsieur Berg raconte que dans les fêtes du village, dans les années 50, les Louisendorfer, quand ils étaient ensemble, ils ont parlé français ensemble. Et à cause de ça, les voisins dans les autres villages ont été un peu troublés par ça. Et ils ont critiqué les jeunes à l'école en disant « Oh, vous êtes des Français, les Français en pantalon rouge ».
Dans notre histoire, les dialectes régionaux ont été très souvent méprisés et exterminés, voire. Par exemple, le breton, il s'était très très mal vu par les bretons jusqu'il n'y a pas si longtemps que ça.
Par uns, les dialectes sont acceptés.
Par contre, en Allemagne, les dialectes ont été assez bien acceptés.
Ils sont aussi de plus en plus verschwunden. Et aujourd'hui, versucht man auch den Kindern den Dialekt noch beizubringen, während meine Kinder den nicht gelernt haben.
Oui, ça c'est intéressant. Monsieur Berg raconte que même en Allemagne, ils commencent à perdre les dialectes et maintenant, ils essayent de les enseigner aux enfants. Mais en fait, ces enfants, ils ont appris un Hochdeutsch au allemand. Et maintenant, moi j'ajoute, et je ne traduis pas, j'ai entendu hier, ses enfants lui ont critiqué parce qu'ils n'ont pas eu le droit de parler le dialecte de leur région à la maison. Monsieur Berg et sa femme ont toujours insisté sur au allemand.
Ja, das war auch, meine Frau hat einen anderen Dialekt als ich. Aber wir in Luisendorf haben keinen besonderen Dialekt. Das hängt mit dem alten Französisch zusammen. Wir haben keinen ausgeprägten deutschen Dialekt. Das hängt mit dem. Wir haben ein paar französische Wörter noch dabei, Trottoir, Chaiselong und so weiter. Aber einen richtigen, wie Frankenau oder so, haben wir nicht gehabt.
In Luisendorf, in Luisendorf. Les gens de ce village n'ont pas eu un dialecte. Et ça a un lien avec cette histoire du français, en fait. Les gens du Luisendorf ont parlé ce haut allemand. Bien sûr, ils ont quelques mots comme trottoir.
Trottoir.
Pour trottoir et chaiselongue.
Chaiselongue, oui.
Mais pas un dialecte, en fait.
Donc, il n'y a pas de traces qui ont été intégrées dans l'allemand classique de français, quoi. À part trottoir et chaiselongue.
C'est aussi dialecte, mais pas si ausgeprägt que d'autres Orte, que je kaum verstehe. C'est très schwer, von einem Ort zum anderen Ort, wenn die richtig Dialekt sprechen, das zu verstehen.
Ok, also en Luisendorf, oui, bien sûr, quelques mots français, mais c'est pas un dialecte comme souvent les autres dialectes en allemand sont vraiment forts. Et les gens ont du mal à se comprendre d'un endroit à l'autre. Mais à Luisendorf, c'est pas le cas.
Mais c'est déjà un miracle qu'un si petit village ait gardé ce français pendant 300 ans déjà, hein, je trouve.
Ja, weil wir abgeschieden waren. Wir sind ein kleines Dorf, es sind nicht viele dazugekommen und wir waren abgeschieden. Es war kein Durchgangsverkehr, es lohnte sich nicht, nach Luisendorf zu kommen.
Ja, parce que c'était une si petite communauté qui se sont vraiment restées entre eux. Et personne passe à travers Luisendorf pour aller ailleurs. C'était vraiment enfermé, c'est un cul-de-sac, vraiment enfermé dans leur petite commune. C'est pour ça que ça a duré.
Das ist ein Grund. En tout cas, merci Monsieur Berg, merci Claire d'avoir participé à ce petit bout d'émission et je vous souhaite de bien continuer vos travaux sur le vieux français.
Oui. Ja, ok. Ja, ich versuche es.
Ok.
Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Au revoir.
Au revoir.
Yves, ça fait un bout de temps que tu travailles concomitamment avec les Allemands de Luisendorf et de Frankenau pour ce jumelage. Et tu insistes souvent sur ce côté protestant qui est lié à l'histoire de ces 300 Huguenots qui sont partis en 1688, etc. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit tableau historique de ce qui s'est passé dans cette époque ?
Ce qui s'est passé, c'est la révocation de l'édit de Nantes, qui a entraîné immédiatement...
Qu'est-ce que l'édit de Nantes ?
L'édit de Nantes, c'est un édit de tolérance qui permettait aux protestants de pratiquer leur religion, qui a été abrogé donc par Louis XIV. Et donc, il y avait un choix à faire quand on était protestant, c'était ou se remettre catholique, ou alors partir pour garder son identité religieuse. C'est ce qu'ont fait 300 personnes, mais bon, dans le Dauphiné, ça représente quelques milliers de personnes, hein, en tout. Donc ces gens sont partis comme ça, à pied, avec bagages et famille, un peu à l'aventure, hein, c'est une grande aventure. Ils se sont retrouvés la plupart du temps à Genève. À Genève, ils ont été accueillis par l'administration suisse, qui a fait en sorte qu'ils soient un peu dispatchés dans différentes directions. Et donc les Diois, eux, ont été conduits à la frontière allemande, Et ils ont continué leur chemin jusqu'à ce qu'ils trouvent quelqu'un pour les accueillir. Et donc ils sont montés haut, puisque la Hesse, une région allemande qui est quand même dans le nord, hein. Et c'est dans cette région qu'un comte, prince de la lande de Hesse, leur a permis de s'installer sur un terrain avec donc armes et bagages, et puis donc de construire des maisons et de s'installer. Voilà. Ensuite, la suite, c'est la construction de ce village, hein, qui a été fait briquet de broc au départ, et puis donc petit à petit, ces gens qui n'étaient pas souvent des scientifiques, des gens qui avaient de la culture, donc se sont vite fait remarquer pour leur technique, et donc ils ont construit des maisons en forme de... Alors le village a une forme de croix, hein. La croix, le centre de la croix, c'était l'arbre à palabre, il y avait un gros arbre, et donc de chaque côté de la croix, et les petites branches de la croix, il y a d'un côté l'école, de l'autre côté le temple, et sur la grande branche de la croix, c'est la rue centrale du village, avec les fermes sur lesquelles il y avait sur les poutres des granges étaient écrits des psaumes ou des citations pour dire à quelle époque la maison avait été construite, pour qui et pourquoi. Et ces familles se sont développées au fil des siècles, et maintenant dans le village, si vous voulez, il existe encore des gens, des familles qui descendent directement de ces protestants. Alors évidemment, il y a eu des mouvements. Il y a des gens qui sont arrivés, il y a des gens qui sont décédés, donc les fermes ont été rachetées. Mais enfin, si on va dans le cimetière de Louisendorf, qui s'appelle Louisendorf parce que le nom de la fille de ce prince qui a accueilli les immigrés, donc si on se promène dans le cimetière, on retrouve les noms du Diwa, hein. Rambaud, Maïfo, enfin des noms comme ça. Donc c'est quand même un jumelage qui a une connotation historique de mémoire importante, ce qui n'est pas le cas en général d'un jumelage. Un jumelage, c'est toujours intéressant, hein, la rencontre des gens de deux communes. Mais là, il y a un petit côté mémoire, et à chaque rencontre, il y a une tradition, c'est qu'il y a une célébration œcuménique. Accepté ou pas par les voyageurs, mais c'est la liberté, mais elle se fait quand même à chaque rencontre.
Si je peux me permettre, Yves, c'est que ce qui est fascinant, c'est comment ce petit village a pu continuer à parler français pendant 300 ans. C'est qu'ils devaient être vraiment comme une île isolée du reste de l'Allemagne, et comme s'ils étaient un petit peu méfiants du reste de l'Allemagne, ou comment ont-ils pu faire ?
Non, ils n'étaient pas isolés. Il y avait toute une communauté élargie française, puisque les Français qui sont arrivés dans cette région, ils ont pu s'installer également grâce à un professeur de Die, qui s'appelait Gauthier, dont j'ai oublié le prénom, et qui était professeur à l'université protestante de Die, qui a dû s'exiler aussi, qui s'est installé à Marbourg, qui est devenue la plus grande université protestante d'Allemagne, qui existe encore d'ailleurs. Et ce professeur a permis dans toute la région l'installation de communautés protestantes. Donc,
de France, du Gono français exilé.
Je connais. Donc, dans toute cette région, il y avait une langue française très très présente, et ça a permis, comme ça, de perdurer un certain temps. Voilà, comme j'explique la chose. Donc, c'était pas en fait un cas d'isolement, c'était donc une grande partie de la région qui était non pas colonisé par les Français, mais enfin, où la langue française était bien présente. Donc ça a duré, bon, jusqu'à après, avec les mouvements de population, ça s'est petit à petit estompé et arrêté.
Par contre, le protestantisme, lui, reste aussi très vivace.
Exactement. Nos partenaires allemands du jumelage sont très attachés à cette mémoire, alors que dans le Diwa, bon, ça un peu plus oublié, hein. Mais bon, quand même, s'il n'y a pas cet aspect-là dans ce jumelage-là, ça n'ira pas beaucoup plus loin.
De la partie allemande, il comprendra
pas. Voilà. Donc, C'est important, je crois, pour les quelques Français qui y croient encore, de le continuer et de le soutenir.
Merci Yves. Toujours dans le bus de retour, je suis avec Jean-Paul Keller qui fut maire de Montmort, il fut une époque, et qui a mené une recherche sur les Huguenots qui sont partis de ce village. Mais est-ce que vous pourriez nous en dire plus, monsieur Keller ?
Oui, donc avant de venir faire ce voyage, j'avais un peu préparé et j'avais fait des recherches sur internet et j'avais retrouvé, grâce à un site, les fiches des personnes, le nom des familles qui avaient quitté Montmort en 1686-87. Donc j'avais dans la tête le nom de ces familles et le listing aussi. Et quand on a été visité au cours du voyage Louisendorf, on a eu une explication très intéressante sur le village, la constitution du village et le temple. Et notamment il y a un petit musée aussi qui retrace un peu l'histoire des Huguenots qui sont arrivés à Louisendorf. Et notamment des fiches de maisons. Et parmi ces fiches, j'ai retrouvé un immigrant de Montmort qui était arrivé à Louisendorf. Donc j'ai pu retrouver sur place, la maison a disparu, mais le lieu où les gens sont venus s'installer. Et ça, c'était très émouvant et très fort.
Combien de personnes étaient parties de Montmort ?
Dans les fiches que j'ai retrouvées, je suis arrivé à 48.
48 personnes ?
48 personnes.
Sur un total de combien à peu près ?
Alors à l'époque, je ne sais pas, mais il devait y avoir peut-être 200-250 personnes.
C'est-à-dire entre un quart à...
Ouais, bien un quart de la population. Et le reste de la population, d'ailleurs, était protestante, puisque après, on voit dans les registres, ce sont tous des nouveaux convertis après. Tous ceux qui sont restés ont été nouveaux convertis, donc c'est qu'ils étaient protestants.
C'est-à-dire qu'ils sont repassés au catholicisme ?
Oui, ben, de force, parce que... S'ils voulaient vivre, c'était ça ou la fuite, quoi. Voilà.
Le fruit de ces recherches, vous allez en faire quelque chose ?
Moi, je ne sais pas. Pour moi, ça s'ajoute à toute la recherche historique que je fais sur le village de Montmort. Alors après, je ne sais pas ce que j'en ferai.
Un petit bouquin ?
D'abord, ce serait un petit article. Voilà, je ne sais pas ce qu'on en fera. Mais voilà.
Merci, monsieur.
Au moins, le partager verbalement aux uns et aux autres. Et voilà.
Merci monsieur Keller.
Merci, je vous en prie.
Toujours dans cette histoire passionnante des émigrés huguenots, après l'histoire de Jean-Paul Keller, Eliane Maïfaux, descendante de Rambaud, qui est à côté de moi dans ce bus du retour, a une histoire passionnante à nous raconter. Est-ce que ça vous dirait de nous la raconter, Eliane ?
Oui, moi je vais essayer de traduire un petit peu ce que j'ai ressenti, parce que j'ai vraiment été très émue de me retrouver sur la trace de ses ancêtres qui se sont exilés, qui ont mis 3 ans à arriver à Greffenthal, et qui ont été reçus, accueillis, à qui on a donné une maison. Pour les autres, on leur a même donné un village, en faisant partir les habitants qui étaient là depuis longtemps, mais à qui on avait donné de l'argent pour reconstruire des maisons. Et donc nos ancêtres Rambaud, je ne suis pas la seule de la famille, mais aujourd'hui je suis là sur cette trace. Et c'était donc Théophile, et Étienne, attends, Martine le sait peut-être. Martine, c'était Théophile et Jean. Voilà, Théophile et Jean qui a ensuite eu un fils, Étienne Rambaud. Voilà, et qui se sont installés à Greffenthal. Et aujourd'hui, les descendants de cette famille Rambaud, c'est Manfred Gombel, a fait des recherches et il nous a retrouvés à Menglon. Et des liens se sont installés entre les familles allemandes et françaises. On a renoué des liens et on parle aujourd'hui des cousins allemands. Et ils disent la même chose pour nous. c'est vraiment très émouvant. Et donc dans cette maison Rambaud qui a été restaurée avec des colombages qui est magnifique, notre cousine allemande a fait une chambre d'hôte et une maison d'accueil qui s'appelle la maison Rambaud, où elle fait des cours de cuisine française, de cuisine huguenote. Voilà. Et ça a beaucoup de succès.
Et donc c'était la première fois que vous alliez la voir?
Moi c'est la première fois.
Oui. Oui. Ça fait quelque chose je suppose.
Tout à fait. J'étais vraiment émue et de voir qu'ils avaient pu faire tout ce périple pour sauvegarder leur foi, pour être honnête avec eux-mêmes. Et, ah oui, c'était... Et puis il y avait à côté à Dobosen un musée des Huguenots et un petit temple aussi où ils venaient se retrouver et où le culte se passe toujours. Je crois qu'ils sont restés protestants dans ces villages. Et tout le quartier autour de la maison, c'est le quartier Rambaud, parce qu'avec les frères s'étaient installés dans d'autres maisons. Et c'était vraiment le quartier Rambaud.
Et de nos jours, vous dites que entre cousins français et allemands, les liens sont encore vivaces.
Eh bien, ils se sont réveillés. Je veux dire, c'est à cause de ces Allemands qui ont recherché la trace de leurs ancêtres et qui sont arrivés chez nous, à Menglan, il y a déjà une vingtaine d'années.
Et que le jumelage entre les différentes communes.
Et que le jumelage entretient et ravive. Bon, c'est très bien. C'est très bien. Merci Nos beaucoup. Cousines parlent français.
Ah oui, parlent français?
Oui.
Très bien. Bien. Merci Eliane pour ce témoignage.
De rien.
Au revoir.
Cette déambulation avec Gerhard Bastet, une des chevilles ouvrières du comité de jumelage allemand et dont la famille faisait partie de ces Diois huguenots exilés en 1688. Autour des années 50, les gens de Die et de Luisendorf ont commencé à nouer des liens et le début était l'église. Cette histoire est huguenote. C'était le premier contact avec Die dans les années 50. Puis après, nous avons eu plusieurs rencontres, mais c'était des petits groupes.
Different meetings with Die and Luisendorf, but it was small groups.
Puis dans les années 70, le football club de Frankenau a eu des contacts avec celui de Die et ils avaient tous les deux ans des échanges. Et en 1985, ça a été l'officialisation du jumelage. Donc le football est venu d'abord. Oui, le football et le canoë. Puis j'ai fait partie des gens de l'équipe de jumelage allemande, avec de l'autre côté Annette Martin, et nous avons eu beaucoup de contacts et nous avons fait beaucoup de choses pour les jeunes. Beaucoup d'échanges avec des jeunes de 16-17 ans qui venaient dans les familles allemandes, qui venaient dans les familles, qui allaient à l'école, ici et à Die. Et aussi dans ma maison, j'ai reçu beaucoup d'hôtes, des jeunes et des moins jeunes, qui ont fait l'expérience de l'Allemagne. Mais ce jumelage n'est pas un jumelage normal comme nous pouvons avoir avec d'autres villes. C'est un jumelage du cœur. Nous avons la même histoire. Provient des
Huguenots.
Mais maintenant, nous sommes ouverts à toutes les confessions et ni d'ailleurs aux opinions politiques ensemble. Ça, c'est important. Et dans mon cœur, c'est important. C'est très émotionnel. Et comment vous expliquez que ces Huguenots français soient restés comme un groupe homogène si longtemps dans l'Allemagne? Oui, c'était comme une île. En Allemagne, nous avons d'ailleurs beaucoup d'autres îles comme ça, mais Luisendorf est très original. La construction du village est très particulière, comme Heinz Beck a pu vous l'expliquer. Nous sommes une des villes en Allemagne qui ont un contact direct avec leur histoire. D'ailleurs, ma famille est venue, il y a très longtemps, de
Pontet.
Et je connais la famille Bastet de Pontet. Maintenant, il n'y a plus personne, mais la maison est toujours là. Et je connais aussi M. Bastet à
Pontet.
Qu'est-ce que vous aimeriez bien que les comités de jumelage proposent à l'avenir ? D'abord, j'aimerais bien soutenir les comités pour les jeunes et leur transmettre notre expérience. Mais ils doivent intégrer à la fois des jeunes et des plus vieilles personnes, ensemble. Ça, c'est important. Et continuer à faire des échanges, à faire des accueils dans les familles et dans les écoles. Pour inclure des écoliers français dans les écoles allemandes et les vice-versa ? Oui, tout à fait. Est-ce que cela a déjà eu lieu ? Non, pas en ce moment, mais ça a eu lieu, mais plus maintenant. Il y a 20 ans, ça arrivait souvent, mais plus maintenant. Oui, parce que maintenant, les familles vont aux États-Unis, en Australie. Ce n'est pas la destination touristique privilégiée. Et dans mon expérience, c'est la même chose en France. Les jeunes apprennent plutôt l'anglais ou l'espagnol, plutôt que pas tant que ça l'allemand. Mais je pense que nous avons une bonne chance de réaliser ça. J'y mettrai ma contribution. Eh bien, merci Gerhard Bastet et à la prochaine. Voilà cette déambulation sur cette spécificité du jumelage entre Frankenau et Die se termine. J'espère que vous l'avez apprécié. À très bientôt. Au revoir. Déambulation.